France Culture. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les Alliés lui avaient appris le courage. Il avait été agent de liaison pour les Anglais au début de la guerre, puis était parti pour Rio, où il avait publié son premier roman, Pierre Daninos, selon ses propres termes, un homme retard. Pierre Daninos a jamais associé à son Major Thompson au carnet du Major Thompson. Pierre Daninos, un temps chassé par les Allemands, les Anglais, les Français. Un écrivain qui fit découvrir son propre pays à travers le regard d'un Anglais. Daninos devenu le Major Thompson, le Major Thompson devenu Daninos, dédoublement qui dura longtemps. Voici les deux derniers volets de la série À voix nue, Pierre Daninos, au micro de Gilles Brochard, réalisation Nicole Salerne, première diffusion sur France Culture, novembre 1993.
À voix nue. Aujourd'hui, Pierre Daninos s'entretient avec Gilles Brochard. Quatrième entretien.
Pierre Daninos, je voudrais aujourd'hui poursuivre cette daninoscopie, si vous me permettez l'expression, en évoquant l'un de vos grands succès littéraires, pour ne pas dire le grand succès d'édition, que vous avez réalisé avec un livre qui est devenu maintenant un classique, « Les carnets du Major Thompson », paru initialement en 1954 chez Hachette, et qui fêtera ses 40 ans en 1994. D'ailleurs, à cette occasion, nous pouvons, je pense, annoncer que sortira une nouvelle édition du livre, donc courant 1994, avec une postface inédite d'une trentaine de pages. Mais revenons, Pierre Daninos, à la genèse de ce livre, avant d'entrer dans le fond du livre lui-même. D'où vous est venue cette idée de livre ?
Eh bien, c'est une idée qui a pour point de départ, c'est très curieux, une concurrence purement commerciale, une concurrence de presse. À ce moment-là, c'est-à-dire en fin 53, j'étais au Figaro, enfin je faisais des chroniques pour le Figaro, mais je ne faisais rien d'autre. Et Brisson, Pierre Brisson, qui dirigeait le Figaro et qui a été un admirable conseiller pour moi, me dit un jour, en novembre ou décembre 53, l'Aurore, qui était le concurrent du Figaro à l'époque, l'Aurore va publier une série de Jules Romain sur les Français. Est-ce que vous n'auriez pas, ou sur la France, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour que nous puissions contrebalancer cette publication ? Alors, moi j'ai dit à Brisson, écoutez, j'ai bien des notes sur les Français, mais que je ne voulais pas publier à la première personne, c'est donc par un complexe d'infériorité, que je ne voulais pas dire « je ». Et je lui ai dit à Pierre Brisson, écoutez, je vais y penser, je pars pour les vacances de Noël avec mes enfants, je vais en Suisse faire du ski, et je vais y penser, et à mon retour, dès le 1er ou 2 janvier, je vous dirai si je peux, ou s'il y a quelque chose. Et je suis parti pour Châteaudet, et une nuit suisse, d'ailleurs une nuit de pleine paix, j'ai rêvé d'un bombardement à Dunkerque. Ce qui était vraiment paradoxal, non seulement c'était paradoxal de rêver d'un bombardement en Suisse, mais c'était paradoxal de n'y penser que 14 ans plus tard.
Vous n'aviez jamais rêvé de Dunkerque ?
Non, jamais, jamais, jamais. Alors, me sont apparus dans la nuit helvétique plusieurs majors que j'avais eus pendant que je faisais la retraite de Dunkerque, sur mon expression consacrée, pendant que je faisais n'importe quoi, mais enfin pendant que j'étais agent de liaison, alors j'ai pris les moustaches de l'un, les joues de l'autre, la taille d'un troisième, enfin vous savez d'ailleurs c'est tout à fait classique, j'ai pris plusieurs... Et puis, à mon réveil, je me suis dit, mais écoute, tu es un imbécile, pour ne pas dire autre chose, au lieu d'aller chercher un persan, un turc, un chinois, prends donc cet anglais. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu une véritable expérience de dédoublement, c'est-à-dire que j'ai découvert la France et les Français comme si j'étais vraiment anglais. Et alors, au retour, j'avais trois articles prêts, puisque ça devait paraître sous forme d'article. À ce moment-là, il n'était pas question de livre.
Et c'était toutes les semaines ou chaque jour?
Non, alors, non, c'était pas chaque jour. C'était à peu près deux fois par semaine, ou même une fois par semaine. Mais j'ai apporté les trois premiers textes à Pierre Brisson, qui a littéralement pris feu et qui m'a dit c'est très bon, continuez. Ça a paru dans Le Figaro entre janvier 54 et avril ou mai 54. Mai a été. Mais à cette époque-là, je ne savais pas que ça pouvait devenir un livre. Je n'avais pas écrit le quatrième article quand les trois premiers avaient paru. Ouais. C'est donc tout à fait contraire, sinon à mes usages, parce que j'ai pas d'usage, mais je suis un maniaque, je refais la copie, tandis que là, j'ai vraiment été très vite. Mais quand je vous dis que je découvrais la France avec les yeux et les oreilles d'un anglais, c'était vrai parce que je lisais, par exemple, dans les ascenseurs, les instructions pour la manœuvre, comme si, comme d'ailleurs, je n'avais jamais lu. Et des expressions classiques que vous entendez depuis l'enfance, comme « aller, au revoir, aller », je les découvrais, je ne savais pas d'ailleurs, et je ne sais pas encore exactement d'où vient le terme « aller ». Je vous laisse aller.
Mais l'astuce, donc, l'astuce de, finalement réside dans le principe de départ. Donc un beau jour, Marmaduke Thompson, abandonnant la chasse au tigre, décide de rejoindre les rives françaises afin d'observer et de consigner, tel un ethnologue, tout ce qu'il surprendra chez les Français, donc leur manie, leur comportement, leurs qualités et les défauts.
Et alors, c'est ça, oui. C'était absolument une exploration.
Une exploration, oui.
Vue par un major. Et d'ailleurs, ça a paru sous le titre Carnet du Major Thompson par le Major W. Marmaduke Thompson, version française de Pierre Daninos. Et d'ailleurs, les gens ont marché.
Découverte de la France et des Français.
Le Daily Mail a envoyé un reporter à Paris pour m'interviewer et savoir où habitait le Major, comment je l'avais connu. Le Major Thompson démasqué, disait le Daily Mail. Donc, ça a marché et ça a tellement marché que je recevais au journal un formidable courrier adressé au major W. Marmaduke Thompson au bon soin de son traducteur Pierre Daninos. Et donc les gens étaient persuadés que le major existait.
Alors vous l'avez décrit, je crois qu'il faut quand même peut-être le présenter. Pour ceux qui ne s'en souviennent plus, vous en dressez le portrait suivant. Les nombreux sports en marge desquels j'ai poursuivi mes études ne m'ont pas développé plus qu'ils ne le font de coutume avec mes concitoyens. Je suis de taille honorable, presque plus haut en couleur qu'en stature. La légère parenthèse de mes jambes trahit le cavalier. J'ai des yeux bleus tout ronds, qu'un état de perpétuel étonnement a fait peu à peu, surtout depuis que je suis en France, saillir de leurs orbites. Un nez qui tourne court et qu'on ne semble pas en vérité avoir pris le temps de terminer, deux joues rebondies aussi luisantes que des pommes du Canada, et dont l'incarnat compose avec la ligne bleue de mes temporales et la barre blanche de ma moustache un vivant rappel du pavillon britannique. Ouais. Voilà pour camper le personnage.
Mais alors ce personnage a pris une telle consistance que il y a un dessin, je ne sais plus, je crois que c'est Ami, c'était un dessinateur, qui montrait deux dames discutant et disant, Major Thompson, est-ce que ce Pierre Daninos existe vraiment? Et des gens m'écrivaient, monsieur, ça n'est pas que votre traduction ne me plaise pas, mais un texte anglais perd toujours de son sel à la traduction, veuillez m'indiquer où je pourrais me procurer l'édition originale. Alors, finalement, il y a eu donc un livre qui a paru chez Hachette, parce que j'avais un vieux contrat qui s'est réveillé, qui ouais. était d'ailleurs un contrat extrêmement modeste, mais comme tous les éditeurs me couraient après pour avoir les droits de cette série d'articles, finalement Hachette d'ailleurs s'est aligné sur les offres les plus hautes, c'est-à-dire 60 000 exemplaires garantis, ce qui pour moi à l'époque dépassait, jamais je n'avais dépassé 15 000 ou 20 000 exemplaires.
Mais qui était votre éditeur chez Hachette ?
C'était Meunier du Houssoye qui était grand patron et qui a décidé de s'aligner parce que il n'était pas un homme d'une culture extraordinaire, mais il avait du flair. C'était un sanglier. En somme, j'aurais pu, comme le livre, les carnets, enfin la suite d'articles, avait eu un tel retentissement que je ne n'imaginais pas que ça pouvait avoir du succès en librairie de nouveau. J'étais resté sur le succès du Figaro, qui me suffisait amplement. Et j'aurais tout balancé si un éditeur m'avait garanti 200 000. Ce qu'on pouvait faire à l'époque, on pouvait acheter à forfait les droits d'un livre. On ne peut plus le faire. Mais j'aurais eu tort, parce que le livre...
On parlera tout à l'heure du succès colossal alors, que vous avez...
Et alors... Voilà comment.
Mais Pierre Daninho, ce qui est amusant, c'est, il faut quand même le dire. Bon, tout à l'heure, vous avez dit en effet que on parlait des personnes qui pensaient que c'était une traduction. Le Major Thompson écrit : Je dois pour mes méritoires efforts des remerciements à mon collaborateur et ami Pierre Daninho, qui est si désolé de n'être pas anglais, car c'était la seule façon pour lui d'avoir un peu d'humour, alors qu'il en est réduit à traduire ma pensée. Voilà. Alors, moi,
j'y croyais moi-même. Je me battais la nuit avec le major, comme si j'étais son traducteur.
Il vous hantait.
Oui, c'était très curieux comme dédoublement, parce que ça a duré plusieurs mois. Et vraiment, ce type m'habitait, ou j'habitais chez lui, exactement. Et ce qui est le plus sidérant là-dedans, je suis un homme retard. Pourquoi, ayant fait la guerre, c'est beaucoup dire, fait 2 mois de guerre à Dunkerque et dans les environs, en Belgique, avec les Anglais, pourquoi, ayant fait la guerre en 40, ça ne m'a pas travaillé plus tôt, ce major, parce que je l'avais rencontré en mai 40 et en juin 40. Bon. Tout de même, il aurait été normal, surtout que j'avais commencé à écrire mon premier livre au Brésil, que je donne ce livre plus tôt. Eh bien, je suis un homme retard, parce que je pourrais vous citer une anecdote qui me caractérise pour écrire Snobissimo, qui était un livre sur les snobs. Je suis allé au Jockey Club. Bon. J'ai été reçu au Jockey Club... Il y a de ça, je pense que c'était 1959-60, par 2 membres du comité très gentils. L'un était le baron de Nerveau et l'autre le marquis de Rochechouart. Et ils m'ont dit tout de suite ce à quoi je ne m'attendais pas, puis je n'étais pas venu pour ça. C'est une république ici, vous voyez, tout le monde est assez simple. Un tel fabrique des roulements à billes, un autre est dans le commerce, un autre vend des harengs fumés. Bref, vous voyez, c'est une démocratie. Je ne voyais pas du tout, je ne relevais aucun des points sur lesquels j'étais à la recherche desquels j'étais. Et puis, finalement, je dis notamment au marquis d'Anchessoir, eh bien, quand le livre paraîtra, je ne manquerai pas de vous l'envoyer. Est-ce que je peux avoir votre prénom ? Et il me dit, je n'ai pas de prénom, mettez marquis.
C'est ça.
Formidable. Ouais. Mais formidable, ouais. Mais je ne me rends pas compte sur le moment que c'est formidable. Ça ne me frappe que 2 nuits, 3 nuits après. Et je me dis, mais tu es vraiment un con. C'est bien ça que je me suis dit. Parce que c'est pas du tout les renseignements que tu voulais sur le jockey. C'est la façon de parler. C'est tout de même énorme d'entendre quelqu'un dire « je n'ai pas de prénom, mais t'es marquis ».
Ce qui était chef de famille et qui
portait le titre. Oui, mais je ne pouvais pas deviner. Etc. Alors j'avais assez d'éducation pour savoir qu'on ne donne pas le nom d'un duc ou d'un marquis si c'est le chef de la famille. Mais comment voulez-vous que je devine qu'il était chef de famille ? Pour moi, c'était normal et beaucoup plus aimable de mettre un prénom.
Bien sûr.
Non, alors je l'ai dédicacé au marquis. D'ailleurs, il m'en a remercié.
Mais Pierre Daninho, pour revenir au carnet du Major Thompson, ce qui est quand même la trouvaille finalement du livre, comme je le disais, c'est donc de dire tout ce que vous aviez à dire sur les comportements des Français à travers un Anglais. Alors, la difficulté est là, finalement. Comment vous avez travaillé pour trouver, chercher, débusquer tous les travers des Français sans offusquer ni les Anglais ni les Français?
Non, mais c'est très simple. Quand on est observateur, le caractère français est très facile à découvrir. C'est-à-dire, je ne parle pas des changements d'opinion. Nous traitons les Italiens de girouettes, mais nous sommes très supérieurs à ce point de vue-là. Non, c'est très simple. Une des clés du major et des observations sur les Français m'a été donnée un soir, peu après la libération, alors qu'il commençait à y avoir des trains normaux, et j'accompagnais mes enfants à la gare de l'Est, ils allaient faire du ski. Et il y avait un wagon-lit et des wagons de deuxième et de troisième. Et le wagon-lit était encadré par des wagons de troisième, car à l'époque, il y avait des troisièmes. Bon. Sur le quai, à côté de moi, il y avait une femme qui avait accompagné son fils et qui était furieuse de le voir s'entasser dans les couloirs pleins, alors que le couloir des wagons-lits, comme d'habitude, était vide, puisqu'une fois que chacun est rentré dans son compartiment, le couloir est libre. Eh bien, la femme a dit à côté de moi, au moment où le train démarrait, « Si c'est pas malheureux de voir ça, comme si tout le monde pouvait pas voyager en troisième. » Et ça, c'est une des clés du caractère français. Parce qu'une Américaine, une Anglaise, une Canadienne auraient dit « Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas voyager en wagon-lit ?»
Bien
non
sûr,
oui. Il fallait que tout le monde voyage en troisième.
Voilà,
ce sont les choses qui m'ont frappé, mais qui ne m'auraient peut-être pas frappé si je n'étais pas devenu Anglais.
Alors, mais il y a des vérités dans votre livre. Bon, vous citez par exemple, les Français peuvent être considérés comme les gens les plus hospitaliers du monde, et vous ajoutez, pourvu qu'on ne veuille pas entrer chez eux. Bon, il y a plein de choses comme ça dans ce livre.
Mais ça,
vous êtes à la fois bienveillant et sceptique, vous êtes à la fois cruel sans le vouloir, et bien sûr très observateur. Et vous allez plus loin, puisque vous comparez bien sûr ce que vous ferez plus tard après avec le Jacassin. Vous écrivez à la page 25 des carnets, « Les Français sont persuadés que leur pays ne veut de mal à personne, les Anglais sont méprisants, les Américains dominateurs, les Allemands sadiques, les Italiens insaisissables, les Russes impénétrables, les Suisses suisses. Eux, Français, sont gentils, on leur fait des misères. »
Ah oui, ça, c'est, n'est-ce pas ? C'est à peine si j'ose rappeler qu'il y a eu un débarquement des Américains, que nous devons la liberté aux Américains et aux Anglais d'abord, mais enfin aux Américains principalement. Parce que la phrase rituelle, c'est « oui, mais ils sont venus par intérêt
voilà, ».
Mais je voudrais qu'on me dise un pays qui n'agit pas par intérêt. Il n'y en a pas. Mais nous, en tout cas, nous sommes persuadés que nous agissons pour l'intérêt général. Ça, c'est une tendance française, c'est la tendance même des journalistes.
Mais ce qui est amusant aussi dans votre livre, c'est que vous en tenez pas, bien sûr, aux idées reçues. Vous passez votre temps dans ce livre, ou du moins le major, à comparer les Français par rapport à son propre pays. C'est ça qui est intéressant.
Oui.
On dira après comment il a été accueilli par les Anglais, puisqu'il a été traduit, je crois, dans 28 langues. Et vous avez dit ceci qui est quand même très révélateur, je crois qu'il est peut-être toujours aussi vrai. Les Anglais ont des rites pour le thé et des habitudes pour l'amour. Les Français prennent pour l'amour des soins que nous réservons au thé. Les Français sont les gastronomes de l'amour et les Anglais des exécutants. Est-ce que vous pourriez dire la même chose?
Non, écoutez, à vrai dire, j'ai relu le livre, pas souvent, mais une ou deux fois depuis quelques années. Tout ce que j'ai dit sur les Français peut être maintenu. Naturellement, le portrait de l'Anglais était déjà caricatural à l'époque. Pour moi, il ne me servait que comme porte-parole.
Oui.
Mais on ne peut pas dire qu'il n'existe plus. Il y a des majors Thompson en Angleterre. Si vous y allez, vous verrez beaucoup de melons encore. Mais il est évident que pour l'amour, nous nous sommes toujours gourés. Stendhal se gourait. Il disait que les Anglais font l'amour une fois par mois et entre-temps s'ennuient. Et je crois que c'est peut-être Nathalie Clifford Barnett qui a eu un des mots les plus jolis au point de vue sexuel. Oui, sexuel. Le féministe ne saurait être une question de sexe puisque le français est plus femme que l'anglaise. Et ça, c'est assez vrai encore. Il faut bien vous dire qu'à l'heure actuelle, Si, naturellement, tout ça a été dépassé et que les moments où je dis que les Français se retournent sur les femmes et les Anglais les croisent dans la rue, c'est pas vrai, c'est plus vrai. On m'a appris dans mon enfance à me tenir les coudes au corps, comme les Anglais, disait mon père. Fais ça comme les Anglais, il fallait se tenir les coudes au corps. Aujourd'hui, les Anglais se tiennent très mal, comme nous, mais ils mangent mieux. Bon, mais pour ce qui est des hommes et des femmes, dites-vous bien que tout en ayant écrit les plus beaux duos d'amour qui soient, c'est-à-dire Shelley, Lord Byron et d'autres, qui ont écrit peut-être les plus beaux duos d'amour, les Anglais sont un pays d'hommes. Et même maintenant, les hommes dans un club de golf passe en priorité avant les femmes, le samedi et le dimanche, pour prendre le départ. Les femmes poirotent et les Anglais passent.
Mais Pierre Daninos, est-ce que l'impact du Major Thompson, puisque vous avez vendu des millions d'exemplaires, c'était...
Non, pas des millions, parce que maintenant on exagère.
À peu près 2 millions d'exemplaires.
2 millions en France, mais...
Bon, et est-ce que, par exemple, est-ce que ça vous a collé à la peau? Est-ce que vous êtes, depuis ce moment-là, devenu le moraliste français, ou du moins celui qui, avec un certain humour, décortiquait l'esprit français? Est-ce que vous n'avez pas eu du mal à vous en débarrasser?
Non, pas du tout.
Ou est-ce que ça vous a...
On m'a souvent demandé si ça m'ennuyait d'avoir un personnage qui m'a marqué, dont on me parle beaucoup plus que d'autres personnages ou livres que j'ai créés. Pas du tout, je serais beaucoup plus embêté si je n'avais rien créé du tout. Or, c'est le fait de beaucoup de gens, et donc je suis très heureux d'avoir eu un livre qui demeure aussi vivant. Non, pas du tout.
J'ai lu quelque part que votre livre avait fait l'objet d'éditions scolaires et universitaires, mais aussi bien à Oxford, mais en Suède et aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis, même en Tasmanie, il y a eu des thèses sur Thompson, et en Allemagne, il y a beaucoup d'étudiants.
Vous avez reçu des étudiants ici aussi?
Ah, j'ai reçu en tout cas des exemplaires des livres où il y a des extraits. Et j'ai reçu, oui, des étudiants, et j'ai vu avec André Siegfried, quand j'étais à Harvard, j'ai fait des speeches pour des étudiants américains.
Et la réaction des écrivains de l'époque, bon, on a parlé d'André Siegfried qui avait reconnu bien sûr votre talent, Paul Morand je crois aussi, vous a envoyé une lettre
Non, il a fait plus que ça, il a... Au dos de la couverture du livre de poche, il y a l'appréciation.
Il a écrit non seulement drôle, le Major, mais constamment drôle et profond.
Oui. Et Paul Morand était très, très emballé par
le connaissait bien l'Angleterre
et
aussi.
Beaucoup mieux que moi. Car ce qu'il y a de drôle, c'est que j'ai appris l'allemand au lycée, ça je vous l'ai dit, mais je ne connaissais les Anglais que par le tennis, par Wimbledon. Et donc, n'importe quel attaché culturel ou diplomate qui aurait passé 10 ou 20 ans ou 15 ans en Angleterre pouvait faire un livre bien plus exact, en tout cas sur les Anglais. Sur les Français, je ne me suis pas trompé. Sur les Anglais, ils ont beaucoup plus évolué que nous.
Je voudrais, Pierre Daninos, aussi citer un petit texte d'un autre écrivain qui date de 1979. J'ai la coupure de l'Argus de la presse. C'est Maurice de Nusière qui avait écrit ceci qui est assez révélateur. Considéré des 54 dans les clubs de Pall Mall, donc à Londres, comme l'événement le plus significatif des relations franco-britanniques depuis la bataille d'Azincourt et l'adoption par les gastronomes français pressés de la recette de casse-croûte mise au point par Lord Sandwich, les carnets vendus à ce jour à 2 millions d'exemplaires ont sans doute plus fait pour la compréhension de deux peuples toujours prêts à disputer la dernière manche que tous les accords culturels. C'est quand même un bel éloge.
Oui, c'est un très bel éloge d'un homme de grand talent et que j'apprécie beaucoup, et comme journaliste quand il était au Monde, et maintenant comme romancier. Oui, mais je peux pas vous dire oui, c'est vrai, parce que c'est comme, je ne sais plus qui, vous avez écrit un chef-d'œuvre, oui, c'est vrai. Non, je ne veux pas dire ça, mais vous savez, comme la dame qui dit à un chef d'orchestre, moi, vous savez, je n'aime pas Beethoven. Et lui, et le chef d'orchestre lui dit, mais madame, ça n'a aucune importance. Et non. Ça, c'est le contraire.
Mais aussi, Pierre Daninos, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que l'idée de le nom, l'appellation Major Tricolore vient ou pas de Georges Pompidou?
Non, pas du tout. En tout cas, il m'a écrit Pompidou, mais pas ça. Et je crois que le titre a été trouvé par Jean Missler, Et d'ailleurs, je trouvais que le titre, je n'aime pas. Le mot.
Parce que bon, il faut dire aussi que vous avez donné une suite au carnet du Major Thompson.
Mais j'ai pas souscrit à un abonnement parce que
vous n'avez pas exploité
non,
le
non,
Major.
Non, j'ai pas exploité. Quand il y avait lieu de revêtir un kilt et de parler des Français, parce que ça m'était plus facile d'en parler en étant un major anglais, alors je prenais la plume du major, ou dans le Figaro, ou dans les livres. Mais je crois que j'ai écrit Les Nouveaux Carnets, et Le Major Tricolore, je crois que c'est à peu près tout. Mais
c'est ça.
Non,
c'est,
en tout cas, ce que je voulais vous dire, pour répondre mieux à votre question de tout à l'heure, ça ne m'a jamais gêné, et je n'aime pas du tout les écrivains qui se prétendent gênés parce qu'on ne retient d'eux un titre leur colle à la peau. C'est pas vrai. Ils seraient bien plus embêtés si rien ne collait.
Mais par exemple, est-ce que ça vous est arrivé d'entendre quelqu'un parler du Major Thompson sans savoir quelle paternité lui attribuer, sans savoir que vous étiez l'auteur ? Parce qu'on peut imaginer
oui,
ça.
Oui,
on peut imaginer un personnage qui dépasse l'aura d'un écrivain.
Oui, parce que je me rappelle être allé dans une auberge à l'époque de la publication, en juin ou juillet 54, et la patronne, Madame Berthier, m'a dit, vous savez, j'ai vu une dame, vraiment, alors j'en étais assise, parce qu'une dame assez âgée, j'ai dit, ben, je vais monter dans ma chambre avec le major. Je ne savais pas qu'elle était liée à un Anglais. Et, vous voyez,
ouais,
à quel point,
oui, bien sûr.
Parce que les gens ne font attention qu'au titre, au gros titre, mais pas au titre du traducteur.
Alors, derrière vous, Pierre Daninos, nous sommes ici donc dans votre bureau à Paris. Derrière vous figure donc l'original du dessin en couleur, qui figure bien sûr à la couverture de votre livre, et signé Walter Goetz. Je le prononce peut-être mal.
G-O-E-T-Z. Monsieur Goetz, comme un Goetz.
Donc, était un dessinateur humoristique anglais.
Oui, j'avais fait sa connaissance quand je travaillais à l'USAS, c'est-à-dire au service d'information américain, tout de suite à la fin de la guerre. Et c'était un homme plein d'esprit et qui travaillait à ce moment-là comme dessinateur du Punch, notamment.
Ouais.
Et je lui ai amené, je lui ai dit, voilà comment je vois mon bonhomme, avec des joues très rebondies, une moustache blanche, un melon, les jambes arquées. Et il a très, très bien réussi. Sa couverture est un véritable chef-d'œuvre. Et ce dessinateur a abandonné ensuite le dessin 20 ou 30 ans plus tard.
Mais il a illustré le livre aussi, dans la première édition,
bon,
qui existe bien sûr en livre de poche. Et donc...
Alors, je vais ajouter quelque chose à ce que je vous disais. Vous avez fait allusion tout à l'heure à Paul Morand. Et je voulais vous dire à ce sujet d'abord que j'ai la plus profonde admiration pour cet écrivain. Un de ceux que j'admire le plus, dont je me nourris le plus depuis des années, depuis Champion du Monde, depuis...
Et encore aujourd'hui.
Et encore aujourd'hui, je suis en train de lire son Fouquet, relire pour la quatrième fois, c'est un chef-d'œuvre. J'adore cette prose, à la fois musclée, très ornée, mais pas trop. Enfin, ses nouvelles sont des chefs-d'œuvre. Bon. Eh bien, nous ne sommes pas devenus amis, mais je l'ai vu à ce moment-là. Et puis, il m'a écrit très gentiment. Il a eu la gentillesse de faire cet éloge du major. Mais je me suis aperçu d'une chose, comme je m'en étais aperçu avec Valérie Larbaud, ou avec Saint-Ex, ou avec d'autres personnages que j'admirais beaucoup. Une fois que vous avez admiré des gens par la lecture, ne cherchez pas allez voir, vous serez déçus. Et Paul Morand m'a très bien reçu, il m'a très bien reçu à Vevey, il m'a très bien reçu à Paris. Mais ce sont des conversations qui ne m'ont rien donné de plus que ce qu'il m'avait donné. Et en général, je crois qu'à l'exception de Pagnol, qui racontait tellement d'histoires qu'on ne pouvait pas les rater, parce qu'il était drôle de nature, je ne crois pas que ce soit nécessaire d'approcher quelqu'un. Et surtout pas l'entourage, parce que l'entourage, en général, est détestable.
À voix nue, Pierre Daninos s'entretenait avec Gilles Brochard. Réalisation, Nicole Salerne. Thank you. à voix nue. Aujourd'hui, Pierre Daninos s'entretient avec Gilles Brochard. Cinquième et dernier entretien.
Pierre Daninos, pour terminer cette série d'entretiens, je serais tenté de donner ce titre « Pierre Daninos est-il un moraliste ?» Car comme je le disais dans le portrait que j'ai tenté de faire de vous dans la première émission, vous avez publié un livre qui résume parfaitement votre esprit, votre sens de l'humour et en même temps la perception que vous aviez à cette époque, dans les années 60, de vos contemporains, non seulement les Français, de haut lignage pourrait-on dire, ou tout simplement les Français moyens, mais également tous les autres peuples, européens ou non. Et ce livre s'appelle donc le Jacassin, sous-titré « Nouveau traité des idées reçues, folie bourgeoise et automatisme », subtilement illustré par le regretté Jacques Charmoz. Vous racontez dans votre préface, donc le livre est paru en 62 chez Hachette, d'ailleurs je remarque qu'il n'est même plus disponible en livre de poche, que l'idée vous fut soufflée par André Siegfried.
Oui, c'est vrai. Il m'a écrit un jour que je devrais penser à faire... à renouveler le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Et donc, c'est lui qui a été l'initiateur.
Et Flaubert faisait partie un peu de votre panthéon ?
Pas tout à fait, mais pour ça, oui. Pour le dictionnaire des idées reçues, oui.
Alors, donc, vous avez suivi le conseil d'André Siegfried, oui. Vous vous êtes mis à la tâche. Oui. Vous l'avez écrit en combien de temps, ce livre ?
Ben, c'est difficile à dire parce que comme c'est les réunions de notes accumulées pendant plusieurs années, je l'ai rédigé en un an.
Vous aviez pris quand même des notes.
Mais oui, j'avais pris des notes sur les automatismes.
Alors, que trouve-t-on dans ce livre ? Vous avez le premier chapitre s'appelle « Le déjeuner de Saumur », qui donne toutes les règles auxquelles autrefois un fils ou une fille de bonne famille devait souscrire.
Ah oui.
Être en règle, se méfier des courants d'air, être un homme, savoir ses départements, être assis dans le sens de la marche, vérifier son addition, avoir ses pauvres, avoir la Légion d'honneur, toujours avoir un peu d'or, aller à la messe, avoir le respect du drapeau, surveiller son foie. Et puis alors surtout ce qu'il ne fallait pas faire, j'en cite quelques-uns, montrer du doigt, prendre le wagon de tête, être ou épouser un réformé, avaler la fumée, abuser des bonnes choses, passer en conseil de guerre, se baigner moins de 2 heures après les repas, il y a une petite note, 4 heures avant si on avait mangé du porc, être mal avec sa concierge, vivre au-dessus de ses moyens, fumer à jeun, ou dans la rue si l'on était une dame, prendre un wagon de queue, le wagon de queue. Là, on s'aperçoit aussi ça a beaucoup changé.
Oui, ça a changé. Mais il y a tout de même des choses qui ne changent pas dans les principes.
Oui. Mais il y a aussi, dans ce même chapitre, un personnage assez drôle qui s'appelle La tante, il n'y a plus, vous vous souvenez ?
Oui, la tante, il n'y a plus, il n'y a jamais plus.
Il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus d'honnêtes gens.
Il n'y a plus de boulangers, il n'y a plus de... Ça existe encore.
Alors, vous avez, je crois, fait une performance, parce que dans ce chapitre, il y a aussi le monsieur ça, et vous avez fait, en une quarantaine de pages, des dialogues basés sur toutes les idées reçues et les conversations alimentées des pires banalités que des gens peuvent dire entre eux.
Oui.
Alors ça donne des phrases étonnantes et c'est presque du théâtre ça finalement.
J'ai été monté au Palais Royal avec des gens de Cantalan.
Ah bon.
Mais c'est un jeu des banalités auquel je joue quelquefois avec Hervé Alphand qui est très fort. Mais il faut vous dire que la plupart du temps, si nous jouons au jeu des banalités en présence d'autres personnes, il y a très peu de gens qui marchent. Pensez-vous ce qu'il fait franc en ce moment, etc. Enfin, non, il y a...
Bon, il y a des choses sur les nègres, sur les juifs aussi. Il y a tout ce qu'on... Alors, il y a aussi, dans ce même livre, qui, je rappelle, a été écrit en 1962, ce que vous appelez les diverses sortes de jacassins. Mais je voudrais quand même que vous disiez, parce que le nom, bien sûr, vous l'avez inventé, il ne figure même pas dans le dictionnaire, même depuis, alors que vous êtes dans les pages des noms propres, dans les pages des noms communs, le jacassin n'y figure pas. À mon avis, c'est un grand regret. Bon, ça vient du mot jacasser, bien sûr.
Oui.
Comment ça vous est venu au départ ?
Ah, vous savez, les titres, c'est très difficile à dire. En général, j'ai 100 titres, et à la dernière minute, j'en ai un autre. Quel bon. Je me rappelle, par exemple, pour les touristocrates, Tous les gens de Denoël étaient réunis. Je devais dire, ce qui est toujours en kikinant d'ailleurs, tout ce qu'il y avait dans mon livre à propos du Tour du Monde du France. Et j'avais des tas de titres. Et puis, à la dernière seconde, le mot de touristocrate m'est venu et j'ai proposé. Et naturellement, ça a été accepté.
Je voudrais simplement dire que Les Touristocrates, c'est un livre qui raconte votre croisière sur le France. Donc, vous avez associé le tourisme et l'aristocratie. Enfin, c'est un peu
oui,
les deux.
Oui, l'aristocratie voilà. Du tourisme.
Voilà. Oui, mais on peut voir aussi l'autre côté, parce qu'il y a les gens huppés qui font la croisière.
Oui, il y avait les gens huppés, mais il y avait des gens qui avaient fait des économies de leur vie entière pour faire le tour du monde.
Et donc, le Jacassin, donc le titre est venu comme ça, ou est-ce que...
Oui, non, c'était venu après beaucoup d'autres, et puis à la dernière minute, c'est le Jacassin qui a...
Parce que parfois, est-ce que dans les années 60-70, on disait « fais pas ton Jacassin ».
Oh oui, je crois. Oui. Mais ce qui m'a beaucoup guidé dans les idées reçues, c'est un oncle, pas celui des courses, c'était un oncle qui était officier de cavalerie à Saumur, et cet oncle m'emmenait quelquefois au défilé du 14 juillet. Et sa principale préoccupation, ça n'était pas tellement que je vois ou qui voit le défilé, c'était de guetter le type qui ne se découvrait pas devant le drapeau.
Ah oui,
alors il fendait la foule et il allait vers le type et il lui allongeait une paire de gifles. Alors, on ne se découvre pas.
Et oui, vous racontez même, oh ben j'en ai giflé un aujourd'hui, j'en ai mouché un aujourd'hui.
Oui, il le disait, oui, j'en ai giflé un aujourd'hui.
Alors, il y a des choses très drôles, par exemple, vous avez des pages sur les généralités de base et en petit, communément admises en France. Par exemple, allemands, tous lourds, américains, tous de grands enfants, arabes, tous paresseux, avocats, tous véreux. Il y a chirurgien aussi. Vous vous souvenez ce que vous avez mis sur...
Non.
Tous pressés d'ouvrir. Alors, députés tous vendus, diplomates tous snobs, très quais d'Orsay, hein, sans aucun contact avec la réalité, toujours les derniers avertis, domestiques tous impossibles, écrivains tous farfelus. Et alors, il y a aussi le vocabulaire général qui commence à aberration, avec maladie du sens commun chez les autres, presque toujours qualifiée d'étrange. Et enfin bref, vous avez passé en revue à la fois la politique, le vocabulaire général, sur les pays, pour montrer que les Français étaient nuls en géographie. Vous avez appelé ça la géosociologie fondamentale. Et sur les Anglais, ne sont plus ce qu'ils étaient, d'accord, mais c'est encore un grand peuple. Moins intelligent que nous, ça oui, mais plus de caractère. Et dans la vie, est-ce que ça n'est pas plus important, je vous le demande?
Oui.
Et alors, il y a une rubrique aussi amusante dans votre livre qui s'appelle « Si l'on vous dit ». Et en dessous, vous mettez « N'y croyez pas ». Et bon, alors ça, c'est aussi, presque tous les travers des Français. Et
oui,
je
ne suis pas bête pour deux sous. Mais...
Voilà, je vais vous parler franchement. Je ne me crois pas plus malin qu'un autre, mais nous serons entre amis. Si cette chienne venait à mourir, je crois bien que je ne lui survivrai pas. Et puis à la fin, vous terminez « N'y croyez pas ». Quel fut le succès du Jacassin?
Un très bon succès. Je me rappelle que Match avait publié une photo de la couverture en soulignant tiré à 200 000 exemplaires. C'est vrai qu'ils avaient tiré. Ce qui me paraissait énorme, parce qu'il faut vous dire que mes premiers livres, c'était de l'ordre de 2, 3, 4 000 exemplaires. Le premier livre, Ario, a tiré à 1800 exemplaires. Alors, après, en France, même l'éternel second ou Méridien en tirait beaucoup moins.
Mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous amuseriez à réécrire un nouveau Jacassin?
Oh, ce serait possible, quoique je n'aime pas beaucoup reprendre un sujet que j'ai déjà traité, mais il y aurait suffisamment de matière avec ce nouveau vocabulaire, parce que nous avons un langage qui n'existait pas du tout à cette époque-là.
Nous avons un langage
qui est à la fois précieux et scientifique et vulgaire, c'est-à-dire que nous parlons de prolégomène, de synapse, et en même temps de bouffe et de fringues.
Et on parle de gérer son bonheur aussi.
Gérer est un mot qui fait son chemin. C'est formidable. Alors je ne parle même plus du niveau. On ne disait jamais au niveau de la psychologie au niveau de...
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre Daninos, vous qui n'êtes pas à l'Académie française, mais est-ce que vous pouvez... Parce qu'on vous a reproché, je pense aussi, d'avoir employé beaucoup de mots anglo-saxons...
Écoutez, mais c'est un reproche absolument ridicule, parce que il faut d'abord une langue comme l'anglais est pétrie de français, forcément, de normands. Bon. Et nous sommes bien obligés, c'est absolument grotesque de publier des décrets pour dire qu'à partir du 14 septembre ou du 14 janvier, il faudra dire enrichisseur pour starter ou allumeuse pour pin-up, d'ailleurs pin-up ne s'emploie plus.
Oui, mais pourquoi par exemple les Canadiens qui ont un vocabulaire plus enrichi que le nôtre emploient des mots qui se substituent aux mots anglais? Pourquoi en France, on ne peut pas aussi substituer des mots anglais si on peut les remplacer par des mots français qui peuvent avoir aussi
leur intérêt ? Vous voyez, les Français, en disant il est très fair-play, dire qu'il est très frangeux, mais non.
Mais il y a certains mots. Par exemple, il y a une académie des enfants qui s'est réunie il y a quelques années qui avait trouvé le mot mâchouillon pour chewing-gum. C'était joli.
Passe-moi ton mâchouillon. Oui. Oh non. Je trouve inutile comme parking. Ça m'est complètement indifférent. De toute façon, la langue que les bons écrivains écrivent est à peu près la même que celle, sinon de Voltaire, en tout cas de Proust ou de. Et encore de Valéry Larbeau.
Vous, ce qui vous intéresse plus, ce qui vous chagrine le plus, si j'ose dire, c'est la perte du sens des mots.
Pas seulement la perte du sens, c'est la vulgarité. Par exemple, j'ai assisté à une finale de tennis dames, demoiselles, de jeunesse, d'ailleurs très jolie. Une, vraiment sortie du pinceau de Botticelli, 16 ans, jouant divinement, et cette ravissante créature de 16 ans, ratant un smash, crie « c'est con à chier ». Eh bien, croyez-vous que l'arbitre ait fait une observation quelconque ? Non, 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 ils ont continué. Et moi, je me suis retourné vers mes petits camarades, 75-80 ans, et je leur ai demandé « est-ce que c'est une expression que vous entendez ?» Ils m'ont dit « oui, c'est les jeunes », ils m'ont dit « c'est... » Et vraiment, le vocabulaire bourgeois, c'est « à plaisir, avili ».
Et Pierre Daninos aussi, vous m'avez dit un petit peu hors antenne que vous aviez, je ne sais pas si on peut le prendre pour un défaut, en tout cas un trait de votre caractère, c'est d'être gaffeur. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples où ça vous a joué des tours dans votre vie ?
Ben oui, parce que plus l'occasion est solennelle, plus je suis porté à la gaffe. C'est-à-dire qu'au lieu de me taire, ce qui est la façon la plus sage, facile et la plus sage d'éviter toute erreur, je me laisse emporter. Et un jour, j'étais à la vente des écrivains combattants. Il était inauguré par Vincent Auriol. Et Vincent Auriol s'arrêtait devant les stands des auteurs et s'arrête devant le mien. Je vendais des livres avec Annabella. Et il s'arrête devant mon stand, il regarde les carnets du Major Thompson et il me dit « Ah ça, j'ai beaucoup ri. Ma femme et moi, nous avons beaucoup ri. » Ah bien, monsieur le Président, alors je ne sais plus ce que je dis, je crois, merci de me dire ça. Et puis, un peu plus loin, il regarde le carnet du bon Dieu et il me dit « Ah ça, ma femme et moi, nous avons beaucoup moins ri. » Et je lui dis, c'est sorti comme ça, monsieur le Président, évidemment, c'est moins public. Alors je sens le pied d'Annabella qui écrase le mien, je sens que j'ai fait une énorme gaffe, et je rougis, je verdis, je blanchis, enfin... Après, vous remémorez la scène et vous faites la scène parfaite en répondant très bien. Et moi, ça m'arrive, et ça m'est arrivé, la même chose m'est arrivée à l'ambassade de Grande-Bretagne, invité pour la visite de la reine-mère, invité... Pour après le dîner diplomatique, ils invitaient quelqu'un pour le présenter à la reine mère. Et les portes de la salle à manger s'ouvrent et je vois la reine mère avec le diadème, le ruban bleu, robe blanche, pénétrer dans la salle et on me pousse vers l'estrade et on fait monter sur l'estrade et monsieur Daninos, si vous voulez, nous allons vous présenter à la reine. Et je me dis, pas de gaffe, hein. Pas Majesté ou Votre Altesse ou votre... Non, rien. Mes hommages, madame, et tu la boucles. Et alors, on me présente et elle me fait un tel blabla sur le major, et je lui dis que je me sens emporté par cette familiarité, et je lui dis, en anglais, « Of course, I send the book to your daughter ». Alors, ça veut dire, en effet, j'ai d'ailleurs envoyé le livre à votre fille. « Oh !» dit-elle très diplomatiquement, « I didn't know that you sent the book to Princess Margaret. » Je ne savais pas que vous aviez envoyé le livre à la princesse Margaret. Et je lui dis, « No, the eldest one, l'aînée. »
Elisabeth.
L'aînée. Alors, votre grande fille. Non, je n'ai pas dit votre grande fille, mais j'ai dit, « The eldest one. » C'est quelque chose d'énorme, de tellement énorme qu'on a emporté la reine un peu plus loin, avec des gens mieux appris. Et j'ai reçu à l'instant une formidable claque dans le dos. C'était derrière moi Jacques de Beaumarchais, qui était un copain de guerre d'ailleurs, et qui allait devenir plus tard ambassadeur à Londres, et qui me dit, écoute Pierre, tu es insortable. Je m'étais aperçu de rien. Tu es insortable. Quand on parle de la reine, on dit the queen. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors vous reconstituez tout après, vous dites, mais je suis le dernier des derniers, c'est la dernière fois. Mieux vaut la boucler.
Alors, Pierre Daninos, dans les épreuves que vous avez traversées dans votre longue vie, vous avez subi une épreuve terrible, puisqu'en 67, vous avez donc subi un accident de voiture assez terrible. Mais on peut se dire aussi que ça fait partie de la panoplie littéraire de certains auteurs. En tout cas, c'est un accident qui vous a marqué, je crois.
C'est un accident invraisemblable, comme beaucoup d'accidents d'ailleurs. Mais enfin... Toujours est-il que j'ai rencontré la nuit sur l'autoroute du Sud un général français, le général Noiret, qui, depuis 17 kilomètres, roulait en sens interdit. Seulement, comme c'était une ligne droite, les gens l'évitaient. Et moi, je l'ai pêché dans une courbe, il s'est tué. Il s'est écrasé contre moi. Et moi, j'ai été très gravement blessé. Ma femme, qui suivait dans une petite voiture, n'a pas vu l'accident, mais... Quand elle a vu une file de voitures arrêtée sur la route, et donc elle ne s'est pas arrêtée pour faire davantage de nombre, elle n'a pas vu ma voiture qui était tombée dans le ravin de l'Essonne. Bon, c'est quand elle est rentrée à la maison où nous habitions la campagne, tout près de là, comme elle ne voyait pas de lumière, elle s'est dit, ça y est, c'est lui, et elle est revenue sur les lieux de l'accident, où on lui a naturellement dit des choses qu'il ne faut pas dire, comme, vous savez, c'est pas beau à voir, on l'a emmené à l'hôpital, et il paraît que j'étais en loc. Mais je ne me suis aperçu de rien, de rien. Je ne vois même pas les phares de cet homme arriver. Il est mort, presque sur le coup. Ma femme a recueilli son dernier soupir, et il avait encore à la main un cigare allumé qui dépassait la portière. Mais il paraît que j'étais dans un état tel...
Vous l'en vouliez à l'époque ?
Non, je ne peux pas vous dire que je l'aurais embrassé. Mais on m'a dit qu'il ne buvait pas. Mais comme il avait fait deux banquets de ce genre-là, il était bourré, bel et bien. Alors, il vaut mieux, sur la route, rencontrer des gens qui boivent et qui ont l'habitude de conduire après avoir bu.
Ouais.
Plutôt que de rencontrer des gens qui ne boivent jamais et qui se sont enfilés.
Vous savez bien qu'on ne choisit pas. En tout cas, dans un texte que vous avez publié quelques années plus tard dans votre livre « Toujours chez Hachette, profession écrivain », vous avez fait un petit texte assez drôle, vous en prenant, sans vous en prendre, bien sûr, à Françoise Sagan, pour dire combien vous admiriez son talent. Et oui. vous avez écrit, elle a connu comme moi un accident de la route, mais si un magazine fait une rétrospective des années 60, c'est toujours sa voiture que l'on voit retourner, pas la mienne. Ça m'énerve.
Oui. Non, faut pas exagérer. Mais là, c'était une petite satire sur Françoise Sagan-Ménère, parce qu'on n'arrête pas tous les ans, et puis il y a un roman, une pièce toujours excellente, un roman toujours bon, etc. C'est fini par être énervant. Bon, mais ça, c'était gentil, parce que je l'admire énormément. Je trouve que c'est très rare, vous savez, les écrivains qui peuvent écrire des livres qui sont très bons, comme Bonjour Tristesse.
Qui est paru un an avant, nous avons fait
des carrières parallèles pendant plusieurs mois. Mais c'est très rare de voir des écrivains écrire de très bons romans et faire de très bonnes pièces. En général, les gens se cassent la gueule au théâtre. Mauriac et d'autres.
Mais Pierre Daninos, je ne veux pas terminer ces entretiens sur une note plutôt tragique, mais c'est vrai que qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie ? Est-ce que c'est quand on dit de vous que vous êtes un humoriste, que vous êtes un dilettante, que vous êtes un homme léger ? Quelle est l'image que vous voudriez qu'on garde de vous ?
Oh, je crois que l'image d'un homme qui a fait sourire et qui a brossé un bon tableau de son époque, mais pas autre chose, qui a fait rire, qui a rendu les gens heureux, même dans la dépression, puisque j'ai écrit un livre sur la dépression qui s'appelait Le 36e dessous, qui était comique. Mais non, je ne suis pas... D'abord, je ne pense pas tellement à l'au-delà. Puis il y a des passeports pour la nuit, comme le titre d'un livre, d'ailleurs, qui sont, par exemple, celui d'Épictète, en parlant de la mort. Au fond, la mort ne m'inquiète pas. Quand elle est là, je n'y suis pas. Quand j'y suis, elle n'y est pas encore. Et ça, c'est absolument vrai. Parce que, vraiment, à part les gens qu'on a réduits à l'état de savon et qui ont passé des heures épouvantables, en tout cas dans l'attente, au moment où vous êtes mort, ce qui m'est arrivé une fois pendant cet accident, je suis resté 6 jours mort dans le coma.
Dans le coma, ouais.
Oui. Vous ne vous apercevez de rien. Moi, j'ai intitulé un article qui est paru dans l'Express « La plus belle mort de ma vie ». C'est vrai. Je suis très content de vous voir aujourd'hui, mais si j'étais mort ce jour-là, quelquefois je me dis, ben ça, au lieu d'un cancer, au lieu d'un...
Bien sûr. Oui. Pierre Daninos, en 73, vous publiez Snobissimo, qu'on trouve, d'ailleurs, je le dis aux auditeurs, c'est un excellent livre également, dans le livre de poche. Vous citez cette phrase de Paul Valéry, « Je me suis détesté, je me suis adoré, puis nous avons vieilli ensemble ». Est-ce que vous pouvez reprendre cette phrase à votre compte ?
Ah non, je ne pense pas que c'est bien fait, c'est bien dit, c'est bien juste pour lui, mais non, c'est-à-dire il m'est simplement possible d'adorer et de détester quelqu'un en même temps. C'est-à-dire j'ai beaucoup d'admiration pour certains hommes ou certaines femmes et je les déteste par certains côtés. Mais je ne peux pas dire de moi je me suis détesté. Oh si, c'est assez vrai.
Vous avez une vie à la fois sentimentale un peu tumultueuse.
Ah oui.
En parallèle de votre vie littéraire. Aujourd'hui, si vous faites un bilan de cette vie sentimentale...
Ah, elle est tout à fait positive. Songez donc que ces derniers temps, à la faveur d'un déménagement, j'ai retrouvé des lettres d'une jeune américaine étudiante à Cornell University, à Cornell College, qui avait, à mon premier voyage aux États-Unis, à 32... J'y allais pour les championnats de tennis, d'ailleurs, et que j'ai connu sur le bateau. Ces lettres moisissaient dans un garage, dans une valise, depuis 32, c'est-à-dire depuis 60 ans. Et elles étaient dans un français tellement pur que j'ai téléphoné au renseignement. Que ça, je veux dire, alors c'est une rapidité peu française. J'ai téléphoné aux renseignements internationaux. Ils m'ont passé les renseignements pour l'Amérique du Nord, qui m'ont passé les renseignements, parce que j'avais piqué Los Angeles au hasard. Tout à fait, elle pouvait être à San Francisco ou à New York. Non, j'ai dit Los Angeles. Au nom d'Iva Wallace, en 3 secondes, la téléphoniste m'a dit, voilà le numéro à Los Angeles. Et je l'ai eu au téléphone 3 jours plus tard. J'ai eu d'abord une bonne... Mais ce qui est curieux, parce qu'avec les femmes...
Alors vous l'avez retrouvée, donc
oui,
vous l'avez parlé.
Oui, elle m'a rappelé plusieurs
jours. Quand est-ce que
vous
vous voyez ?
Elle vient au printemps. Mais elle doit avoir peut-être 2 ans de moins que moi.
Alors je signale que vous avez dans le Jacassin, au mot amour, vous citez les 2 sentences qu'on dit généralement. Vous allez me dire laquelle vous choisissez. Premièrement, il n'y a que ça qui compte dans la vie, allez, ou bien... Il n'y a tout de même pas que ça dans l'existence, nom d'un chien. Donc vous vous rangez dans la première.
Non. Non, je considère l'amour comme très important. Ce qui est important, c'est un ensemble de choses. Il faut, pour qu'une journée vraiment soit bonne, il faut qu'elle soit d'amour, il faut qu'elle soit de table, parce que pour moi, la table compte énormément.
Bien sûr.
Et de voyage, de paysage. C'est très rare de réunir les tournées. Non, je n'adopte ni l'une ni l'autre.
Vous êtes marié 2 fois.
Ah oui, je suis marié 2 fois, mais j'aurais dû me marier 3 fois. Mais pas maintenant, je veux dire, avant d'épouser Marie-Pierre, que j'ai rencontrée par hasard. Enfin, par hasard, c'est-à-dire, je ne devais pas rencontrer Marie-Pierre à New York. Elle enseignait le français, et moi, on m'avait donné 3 noms de françaises. J'avais demandé des noms de françaises pour travailler sur un livre sur les Américains, des françaises qui connaissaient bien ou qui étaient mariées à des Américains. Bon, comme j'ai la manie de la documentation, qui même en humour est très important, car il y a un mystère dans l'humour. Reparlons une seconde du major. Si vous inventez un nom de carabine pour la chasse au tigre, il est moins bon que le véritable nom qui est l'Express Magnum de 127 ou 772. C'est très curieux. Ça n'a plus d'effet, quoique les gens ne connaissent pas.
Une crédibilité.
Bon, là, par souci de documentation, je voulais voir des gens qui avaient vécu avec des Américains. On m'avait donné 3 noms de femmes. Je m'enquiquine tellement en les invitant à dîner avec les 2 premières que je barre le nom de la 3e. C'était ma femme. C'était celle qui allait devenir ma femme. Et plusieurs semaines se sont passées. Et il a fallu que des amis américains de Marie-Pierre lui disent de m'appeler pour qu'elle se décide à m'appeler un jour alors qu'elle était sûre de ne pas me trouver, parce qu'il était 4h de l'après-midi, et j'étais là, et je lui ai naturellement dit, mais j'allais vous appeler, mais je n'ai pas invité à dîner celle-là, parce que je m'étais trop enquiquiné, et je l'ai invité à prendre un verre, et c'est comme ça que nous sommes... Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que Marie-Pierre, mon épouse, avait fait cadeau à ses amis américains de mon livre, Les carnets du Major Thompson, qui n'était pas encore traduit. Et mes amis lui ont dit, vous avez toujours des idées de cadeaux charmantes, ce livre est très drôle. Et alors, en voyant la couverture, il y avait ma photo au verso de la couverture, et Marie-Pierre dit, vous voyez, c'est avec un homme comme ça que j'aimerais vivre. Ouais. Et elle ne me connaissait pas. Il y a quelque chose de mystérieux. Et donc, finalement, nous sommes mariés.
Et Pierre Danios, vous continuez toujours à jouer au tennis?
Ah oui, 2 fois par semaine, en simple.
Et est-ce que le tennis, par rapport à la littérature, vous a aidé pour compenser peut-être la difficulté de l'écriture, justement? Est-ce que ça a joué peut-être une sorte d'équilibre dans votre vie?
Ah ben, c'est-à-dire, ça m'a aidé dans la mesure où cet oncle qui était odieux m'a complètement appris à écrire.
À voix nue, Pierre Daninos s'entretenait avec Gilles Brochard. Réalisation, Nicole Salerne.
Ces 2 volets de la série À voix nue, Pierre Daninos, au micro de Gilles Brochard, réalisation Nicole Salerne, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 25 et 26 novembre 1993. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Someday, hoping and praying for aduna diwi yo aduna we la fi aduna we la fi aduna we la fi oy are ma nyoda are faroda are amwe aduna we la fi